Hello tout le monde, je suis Edouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas de noter ou de commenter le podcast sur votre application favorite. Ça vous prend quelques secondes et c'est un coup de pouce énorme pour moi. Cette semaine, je reçois l'auteur, compositeur et interprète Oet, qui s'écrit O-E-T-E. Il a 23 ans et est d'ores et déjà présenté comme le nouveau roi de la chanson française. En seulement quelques titres, Oet a réussi à imposer son style avec une voix éraillée et des sons percutants qui emportent tout sur leur passage. Des chansons graves mais qui donnent envie de danser dans un élan salutaire, comme si la musique pouvait tout sauver. Oet est au début d'une carrière prometteuse et cette année, il va se produire sur la scène des Inouïs du Festival du Printemps de Bourges. Et c'est un très bon signe en général, puisque des noms comme Christine and the Queens ou encore Fishback, Silly Boy Blue ou même Eddie de Preto sont passés par là. Perds pas ma page, épisode 25, c'est parti. Salut Oet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bah, merci à vous.
Je suis content de te retrouver, on est en terrasse au soleil, on n'est pas trop mal.
Ça va, il fait beau, on est bien.
Avant de commencer, je le fais à chaque fois, je veux juste te rappeler le principe du podcast. Donc tu m'as donné trois titres de livres qui t'ont marqué, que tu as particulièrement aimé dans ta vie. Et on va en parler là pendant une demi-heure. Le but, et je le dis à chaque fois, c'est pas une étude de texte. Je veux juste savoir pourquoi ces livres t'ont marqué, comment tu les as découverts, qu'est-ce qui t'ont fait ressentir. Et surtout que tu me donnes et tu nous donnes envie de les lire. C'est ça le plus important. Je les ai pas avec moi malheureusement, j'ai bossé un peu dessus.
Je les ai pas pris.
Et c'est pas grave du tout. Tu veux commencer par lequel? On a Retour à Reims pour Tout l'or des mots ou La vie devant soi d'Émile Ajar.
Je pense qu'on peut commencer par Retour à Reims.
Retour à Reims.
Comme début, ouais.
Ouais. Après la mort de son père, Didier Héribon, l'auteur de Retour à Reims, retrouve son milieu d'origine, un milieu populaire qu'il avait délaissé depuis plusieurs années. Et ce retour à Reims, c'est l'occasion pour lui de se plonger dans son passé et de réfléchir au monde dans lequel il a grandi. Le système scolaire, la lutte des classes, la sexualité, la politique. Son livre est une étude sociologique passionnante. Retour à Reims est disponible aux éditions Flammarion. Tu l'as découvert comment, ce livre ?
Comment je l'ai découvert ? Eh bien, c'est mon manager qui m'a prêté, qui m'a fait une petite sélection de livres, dont celui-ci. Et je l'ai trouvé... Enfin, je me suis pas mal reconnue, en fait. Ça a fait beaucoup écho à mon parcours. Du coup, j'avais envie d'en parler.
Alors du coup, Retour à Reims, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un roman... Enfin, c'est presque un essai autobiographique, en fait.
C'est presque un essai mi-sociologique, autobiographique. Ouais, ouais. Ouais, on peut dire sociologique, par Didier Héribon, du coup, ouais. qui est sociologue.
Et qui retourne chez lui après la mort de son père.
Voilà.
Qui retourne un peu là où il a grandi. Et il a parcouru beaucoup de chemins, enfin, etc. Il analyse un petit peu là d'où il vient, son milieu social.
Oui, sur trois générations, du coup, il analyse son parcours, là d'où il vient et comment, justement, il en est venu à faire ce transfuge de classe.
Pourquoi voilà. Ça t'a parlé à toi ?
Bah parce que je viens de la Picardie profonde, d'un petit village de 250 habitants qui s'appelle Moller. Et j'ai vécu, du coup, j'ai grandi dans une famille similaire justement à ce qu'on peut retrouver dans ce livre, c'est-à-dire une classe moyennement pauvre, qu'on peut dire, des grands-parents ouvriers. Des grands-parents qui, eux, sont justement beaucoup plus... Enfin, je pense à ma grand-mère qui chante l'international à chaque repas de famille. Donc, ancrée dans quelque chose de beaucoup plus communiste. Et puis, en tout cas, avec des valeurs qu'on retrouve vachement dans les années 68, notamment. Donc, très sociale, et ça me parlait énormément. Et puis... ce regard juste après la génération en dessous avec mes parents qui eux ont plutôt renversé l'affaire sont venus avec cette montée du FN donc c'était hyper intéressant même juste au niveau du point de vue politique
Exactement, puis, exactement ce qui se passe dans Retour à Reims, en fait, c'est vraiment ça.
Ouais,
quoi,
vraiment, vraiment. Ce qui se passe encore actuellement en 2022, justement, avec les élections présidentielles. Et puis, ce désert aussi culturel total, en fait. C'était ça, surtout. Je viens d'un désert culturel, grandir au milieu des champs, donc là où, au contradictoire, il y a de la culture, en réalité. Il y a la culture du champ, mais il n'y a pas la culture au sens culturel, comme moi je l'entends et j'en ai besoin, en tout cas. Et du coup, c'était intéressant aussi d'aller chercher ça, quoi.
Ça a été difficile pour toi, justement, d'assumer le fait que de vouloir faire de la chanson, de vouloir faire de la musique ?
Ouais, surtout la musique, parce que c'était quelque chose de très inatteignable dans mes représentations. J'ai commencé du coup avec le théâtre, et puis après j'ai fait de la danse, et puis après j'ai fait du cirque, puisque c'était des choses qui appartenaient quand même au milieu du spectacle vivant, mais qui pour moi me paraissaient plus accessibles, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé par tout ça pendant mon parcours, mon enfance. J'allais à l'école de théâtre dans le village juste à côté. Et puis après, la musique est venue quand même, quoi. Mais on y est allé.
Tu savais que l'objectif, c'était un peu la
musique. Ouais, bah bien sûr, ouais. Bien sûr. Je me rappelais, enfin, je faisais des spectacles dimanche avec mes cousines devant mes parents. Enfin, c'était la musique qui m'habitait totalement, quoi. Je chantais, pas très bien d'ailleurs, mais je chantais.
Et justement, si tu fais comme Didier Ribon, quand tu retournes chez toi aujourd'hui, comment ta famille vit ce que tu es en train de vivre, toi, là, parce que ça commence. Il se passe beaucoup de choses là pour toi en ce moment.
Il se passe pas mal de choses, ouais. Bah, il y a une certaine fracture, je dirais. Enfin, je ressens en tout cas une certaine fracture entre moi, comment je vis et comment je me sens aujourd'hui. Et quand je reviens là-bas, souvent j'ai une chanson de Corneille qui revient en tête, qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin ».
Ouais. Elle fonctionne, cette chanson, on l'aimait bien, cette chanson.
Mais elle fonctionne, moi, je sais pas, elle doit être de 2006, mais elle me fait toujours sourire, en tout cas. Mais d'un côté, oui, à l'image d'un autre auteur qui est Édouard Louis, en fait, je vois justement aussi, par exemple, ma mère qui peut essayer de... Enfin, qui sort, en fait, de ses chantiers battus et qui, elle aussi, va se retrouver de l'assistante sociale à déléguée nationale comment on appelle ça, syndicat.
Ouais,
c'est ça.
Ouais.
Déléguée nationale de son syndicat dans son asso. Enfin, donc, je pense que ça peut aussi leur apporter une certaine lumière, à se dire que des choses sont possibles, juste faut s'en donner les moyens de les faire, quoi. Et c'est assez beau de voir justement le parcours que peut prendre ma mère aujourd'hui là-dedans. Ça me fait plaisir, quoi.
C'est génial, mais c'est hyper beau. Et juste avant qu'on commence, tu me parlais de ton lien avec la lecture. T'allais me dire,
justement, du coup, en venant de ce désert culturel, la lecture, enfin, j'ai pas grandi avec des livres dans les mains, forcément. Il y avait un truc un peu plus simple qui s'appelle la télévision, surtout que moi je suis un peu de la génération téléphone, donc je crois que j'ai dû me retrouver à 13 ans avec un téléphone dans les mains, ce qui en soi est assez tard aujourd'hui, je pense, mais qui pour moi me paraît hyper jeune, en fait. Et du coup, j'ai pas eu cette culture du livre à lire énormément et à beaucoup aller rechercher. Pour moi, c'est pas un objet qui est accessible, en fait.
Ouais,
pour moi, ça peut être un objet qui a été accessible. Ça l'est devenu par des professeurs que j'ai pu rencontrer, tout ça, mais c'est encore un objet que j'apprends aujourd'hui à apprivoiser, quoi.
Ok, mais qui t'apporte des trucs
Qui m'apporte énormément, ouais, et que j'aime me plonger. Et il est libérateur, hein. Quand je prends le métro, je suis bien content d'avoir un livre pouvoir m'enfermer dans une bulle.
C'est clair.
Ou d'écouter un podcast ou quelque chose pour pouvoir justement fuir cette espèce d'oppression souterraine, là.
C'est clair, ça permet de s'isoler un peu, ça fait tellement du bien.
Exactement.
J'aimerais bien qu'on écoute un titre. J'aimerais bien qu'on écoute Défense.
Ouais.
Est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette chanson? Comment elle t'est venue?
C'est une chanson qui est venue pendant le confinement. Moi, généralement, quand j'écris mes textes, je ne parle pas d'un sujet précis. Enfin, j'ai une mélodie qui vient de trois mots, et puis après, le texte s'écrit, et à la fin, je dis « Ah, ok, genre, j'ai voulu dire ça ». Mais je ne me dis pas « Ok, je vais faire une chanson en parlant de ça ». Parce que je trouve que... Enfin, j'essaie de garder une part de vérité au maximum dans ce que je fais, et je trouve que la vérité, elle vient comme ça aussi, avec de l'instinct.
Ouais.
Défense, c'est une chanson qui parle, du coup, avec du recul et 6 mois de recul, qui peut parler de plein de choses, mais j'ai envie de la centrer sur la dissociation identitaire, puisque j'ai pu me sentir à un moment, je pense, dissociatif, et je suis entouré d'amis qui le sont, et j'avais envie que ça ait cette importance-là. la dissociation, c'est juste le fait de parfois être trop dans son esprit, dans sa tête, et de ne plus être totalement le maître de son corps et d'être une autre personne, entre guillemets, pas une double personnalité, mais en quelque sorte quand même, quoi.
Et tu veux dire du coup de casser les codes de l'identité comme on le vit un peu dans notre société aujourd'hui, un truc
C'était vraiment plus, en fait, là pour le coup, Défense, c'était plus pour moi un exutoire où grâce à ces mains qui se tendent, grâce à cet entourage que j'ai, j'arrive à fuir quand même un peu cette oppression qui est dans ma tête un peu omniprésente avec cette anxiété, et c'était vraiment cette libération là, quoi.
Et ben on écoute Défense.
Allons-y.
Sur le dos j'écris mon défense. C'est déjà la nuit, la foudre qui rentre, il est tard. Je n'avais pas prévu qu'on était samedi. On m'a pris la main, t'as pris la manche, que j'ai le décor, tant qui tombe autour de moi. J'ai plus le temps, j'ai plus les danses, je me défends en transcadence. Il est tard, dis-moi que c'est juste une illusion.
Allons-y.
Soit pour tout l'heure des mots.
Mais je pense qu'on peut continuer avec Émile Ajar.
Émile Ajar, la vie de
François. Ou Romain Gary.
Ouais. Publié en 1975, La vie devant soi est connue pour ses qualités littéraires, bien sûr, mais aussi pour le scandale qui entoure l'obtention du prix Goncourt. À l'époque, Romain Gary a déjà obtenu le prestigieux prix littéraire en 1956 pour son livre Les Racines du Ciel. Et dans le règlement du Goncourt, il est précisé qu'un auteur ne peut pas l'avoir deux fois. Pour relancer sa carrière qui commençait à ronronner un peu, Romain Gary écrit La vie devant soi et signe sous un pseudonyme, ça sera Émile Ajar. Jusqu'au bout, il va entretenir le mystère. Pour son deuxième prix Goncourt, il va même demander à son petit cousin, Paul Pavlovitch, de recevoir le prix et de répondre aux questions des journalistes. La véritable identité d'Émile Ajar ne sera connue qu'à la mort de Romain Gary en 1980.
Ouais, j'aime bien cette audace de... J'aimais bien cette audace, j'aime bien ces monstres, en fait, un peu comme on peut le voir chez Béatrice Dalle ou chez ses gueules. Moi, j'appelle ça des gueules parce que je les trouve intéressants et que ça laisse passer la lumière, quoi.
Ouais.
C'est quand c'est fêlé que ça laisse passer la lumière. Et pour moi, Ajar laisse passer la lumière.
Et pourquoi La vie devant soi, alors? Qu'est-ce qui t'a marqué?
La vie devant soi, parce que c'est l'histoire d'une ancienne prostituée qui a connu Auschwitz et qui recueille justement des enfants de prostituées chez elle, qu'elle élève pour leur éviter les ennuis des macs et des proxénètes qui peuvent être présents. Et du coup, j'étais éducateur spécialisé avant de faire de la musique.
Okay.
Donc le social. Donc ça m'a énormément parlé, ce livre, quoi. La protection de l'enfance, l'accompagnement justement de ces ados.
C'était une voie que tu voulais prendre à la base, ou c'était...
Je sais pas si... Je sais que je l'ai prise à un moment de ma vie. Tous mes amis allaient faire EduxP et on m'a dit, tu veux faire quoi? Je veux faire EduxP. Et pas pour suivre le mouvement, mais c'était plus... en fait, je me suis rendu compte que ça a été une vraie formation pour moi pendant 3 ans. Du coup, ça a permis une remise en question et aussi justement de pouvoir aller se lancer totalement dans la musique.
C'était
quoi.
Un marchepied
ouais,
vers
c'était
la musique,
comme une psychothérapie pendant 3 ans. Genre, ok, t'as vécu ça, là, t'as 18 piges, tu rentres en école d'éduc, tu vas bien remuer tout ce que t'as vécu et puis bah, maintenant, tu vas pouvoir être suffisamment chargé pour pouvoir... et armé pour pouvoir te lancer, quoi.
Ouais.
Et puis c'était accompagner justement toutes ces populations, être auprès des autres, apprendre auprès des autres, en fait, ça qui est hyper riche, quoi.
Ouais. Et donc ça t'a, ce livre un peu t'a rappelé tout ça aussi.
Ouais, ça m'a vachement évoqué toute cette période. Et puis son écriture, moi j'adore Romain Gary puisque c'est hyper facilement pour moi qui n'ai pas eu la culture des livres, c'est hyper accessible comme livre du coup.
Hein. C'est toujours des personnages
haut en couleur,
ouais, un truc de dingue qui sont hyper vivants quoi.
C'est ça,
part.
Et puis hyper attachant aussi. Enfin moi à la fin du livre, cette Rosa, j'avais envie de la pousser avec l'enfant pour lui faire monter ses 6 étages et qu'elle arrive en haut de chez elle quoi.
C'est clair.
Donc
c'est
non
clair.
Non, c'est hyper prenant quoi.
On écoute un deuxième titre. On va écouter La Tête Pleine.
Ouais.
Pareil, je veux bien que tu me racontes un peu comment il t'est venu ce morceau.
Mais La Tête Pleine, pour moi, c'était un peu cette urgence d'amour dont on avait besoin. Je l'ai écrite aussi pendant le Covid. Je crois que j'ai commencé à écrire
le
beaucoup
COVID
de chansons pendant
très...
le Covid, en fait. Très,
COVID était, ouais.
Très productif.
Une belle
ouais.
source d'inspiration.
Voilà. Non, mais cet enfermement, ça a créé plein de choses. Mais du coup, ouais, La Tête Pleine, c'est cette génération un peu 2.0 qui est là... qui est à la fois extrêmement seul mais à la fois extrêmement besoin d'amour et on est connecté mais que par nos téléphones et plus réellement par des connexions humaines et ça parle de ça, c'est tu m'as pas encore quitté que je sais déjà que je vais avoir besoin de toi après quoi.
Ouais.
Donc je veux pas que tu partes, c'est ça.
Juste un truc qui m'intéresse aussi, c'est comment tu vis ce qui se passe en ce moment pour toi, parce que tu vois c'est le deuxième titre où tu me dis je l'ai écrit pendant le confinement où c'est une période où on a été hyper seul, enfin en tout cas très isolé etc. Toi, 2 ans plus tard, là, ça explose un peu, il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Comment tu vis tout ça, toi, du coup ?
Ben, je suis hyper anxieux et je suis quelqu'un, j'ai un certain optimisme, mais quand il s'agit de moi-même, je suis assez pessimiste quand même.
D'accord, tout va bien.
Donc voilà, et du coup, non, en fait, je suis juste dans un processus et j'estime que la vie sert à ça en fait, à évoluer, et c'est toujours essayer de me comprendre davantage et d'évoluer davantage et de toujours aller chercher ces questions existentielles un peu plus loin et d'essayer d'y répondre, ouais. Parce que je crois que c'est le but de la vie au final. Et comment je le vis, du coup j'essaye de pas trop me prendre la tête, et non, je crois que je suis suffisamment angoissé par ma personne que du coup je prête pas trop attention en fait à ce qui peut se passer ou à l'ampleur que le projet peut prendre. Donc,
tu vis ton truc un peu à fond
ouais,
pour toi, quoi.
Je reste les pieds un peu, enfin, je reste totalement chill par rapport à tout ça, quoi.
Ok, cool. Allez, on écoute La Tête Pleine.
Corps contre corps, encore lassé. L'hiver sans froid, l'hier en joie. Mais que restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il de nous? Que restera-t-il? Deux âmes en péril. Que restera-t-il de nous? Car j'ai la tête pleine, pleine de toi. Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi. Car j'ai la tête pleine, pleine de toi. Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi. Une fente glisser, peur à l'erreur de te blesser. Faute et défaut sont dévoilés, mais les éloges restent bien cachés. Quand les fleurs de l'adresse te caressent et que je songe enfin, tes prouesses, tes promesses, j'en ai que faire en vain. Je délaisse mes faiblesses dès que je crois. Oh non.
car j'ai la tête pleine, pleine de toi. Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi. Car j'ai la tête pleine, pleine de toi. Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi.
Il nous reste un dernier livre qui s'appelle Pour tout l'or des mots, de Claude Gagnère. Je vais t'avouer que je n'avais jamais entendu parler de ce dictionnaire, en fait, si j'ai bien compris un petit peu. C'est un recueil de...
Un recueil de mots, d'anecdotes, de poèmes, de philosophes que j'apprécie du coup, qui m'a été offert pour un anniversaire par mon manager aussi.
Ok. On va remercier absolument ton manager.
Merci Jérôme. et en fait, j'aime bien ce livre parce que justement, avec l'approche, tu vois, que j'ai du livre qui est très assez décousu au final, ou pas hyper consolidé, bah, ce livre me permet totalement de pouvoir le découdre et de prendre un mot, d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin, et puis de refermer et d'y revenir plus tard en allant chercher un autre mot. Il n'y a pas de suite logique comme il est construit comme un dictionnaire.
Tu peux picorer un peu dedans.
Tu peux manger à tous les coins et prendre ce que tu as envie, donc ouais. C'est hyper intéressant. Et puis on apprend plein de choses hyper cool, comme le fait que l'anagramme de parisien, c'est aspirine. Et je trouve que c'est pas
assez mal. Juste.
Il y a des choses aussi beaucoup plus intéressantes. Il y a du Voltaire. Enfin, il y a plein de références en fait qui justement, bah, moi, me permettent de construire un peu ce manque entre guillemets, ou en tout cas de continuer à venir manger de la culture et essayer d'en avoir, quoi, tout simplement.
Est-ce que l'écriture pour toi c'est quelque chose qui est quand même assez facile entre guillemets? Est-ce que tu...
Mais c'est assez instinctif.
Ce rapport
au final
avec les mots justement un peu.
Mais c'est assez instinctif, ouais. Et puis moi, au final, j'écris pas, comme je le disais tout à l'heure, avec des thèmes. J'aime justement les mots, j'aime les assonances, j'aime les allitérations. C'est pour ça que j'aime Bachung, par exemple, parce qu'il avait et il a cette capacité à écrire qui est dans le... En tout cas, à chanter ses textes, puisque certains, il ne les a pas écrits, mais qui est vraiment dans cette... dans ces mots en fait. Enfin, j'ai dans les bottes des montagnes de questions, c'est tous ces trucs qui résonnent, enfin, c'est hyper poétique et à la fois c'est prenant, enfin, c'est ce que j'aime, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui transparaît un peu dans ta musique aussi, un truc un peu
frontalier,
ah ouais,
j'aime
ouais,
bien.
Carrément. j'ai deux choses à te faire pour finir. Tu sais que Bernard Pivot avait une émission littéraire, évidemment, Apostrophe, dans laquelle il faisait un questionnaire Pivot. Et j'aime bien cette idée, alors je vais t'en faire un et tu réponds spontanément. Si tu étais un jour de la semaine?
Vendredi, je pense.
Ah ouais?
Ouais.
Et on me dit beaucoup vendredi.
Mais c'est un jour un peu libérateur, tu vois, genre c'est là.
Ça y est, c'est fini.
C'est le souffle, quoi, le vendredi, c'est la respiration.
Ton insulte favorite?
Mon insulte favorite? Va de foder, en italien.
Si tu étais une ville?
Ah, je crois que je serais Lyon.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi?
Ou pas
j'aime Lyon.
Bah, j'ai fait un an à Lyon et c'était hyper constructif en fait.
Ok.
J'aime bien, je trouve que c'est une ville à taille humaine, c'est lumineux, il y a de l'art, il y a de la... Enfin ouais, il y a de l'art, il y a de la culture, il y a de tout, socialement mixé, hyper intéressant. Je trouve que la construction de la ville est hyper bien faite, enfin j'aime vraiment y être, quoi.
C'est marrant, tu sais, parce que Lyon a rarement une image très accueillante.
C'est trop cool, Lyon.
Bah ouais, c'est cool, Lyon, t'as raison. Un mot que tu détestes?
Un mot que je déteste? La procrastination, mais je l'utilise un peu trop. J'aime pas ce mot. Procrastiner, j'aime pas ce mot.
Parce que t'es
concerné. Parce que je le suis, ouais, je crois. En fait. Du coup, je l'aime pas.
Un mot que tu adores?
Ésotérique.
C'est beau. Un métier que tu aurais adoré faire?
Steward.
Ah ouais? Pourquoi?
Bah, juste
pour
avant
le costume
de...
ou pour le voyage?
Non, mais parce que je trouve ça trop intéressant. En fait, j'ai une horreur, je crois, de la routine et du truc 35 heures semaine convenu socialement par l'État pour les gens. Voilà, c'est comme ça que vous devez vivre. Et c'est ce qu'on se trouve un peu, en fait, dans, bah, dans le côté artistique. T'as pas un quotidien qui est 35 heures par semaine.
C'est clair,
dans
ouais.
Le steward, en fait, tu voyages, t'es là, tu passes 3 jours ici, tu voles. Enfin, je trouve ça hyper cool. Et puis,
la galère du décalage horaire.
Ouais, mais il y a le contact, un peu de contact humain. Puis je sais pas, ça m'a toujours excité, je crois, de servir des jus de tomate avec du céleri. Je trouve ça cool.
Et ta qualité préférée chez une personne? chez une personne, pas chez toi.
La lumière, la fêlure.
Super.
C'est pas une qualité.
Si, si, c'est une qualité. C'est une qualité. Et pour terminer, j'ai toujours l'habitude d'offrir un livre à mon invité.
Wow.
Et aujourd'hui, je voulais t'offrir Betty de Tiffany McDaniel. Est-ce que tu l'as lu ?
Eh bien non.
Eh bien voilà, c'est un roman que ton manager n'aura pas eu le temps de t'offrir et que je t'offre avant. Betty, juste pour te dire, c'est l'histoire d'une petite indienne qui est la sixième d'une famille de huit enfants. En fait, c'est une petite métisse. Sa mère est blanche et son père est cherokee. Et elle s'installe dans une ville de l'Ohio et elle a 7 ans. Et en fait, elle est liée très fortement à son père qui lui inculque tous les rites, les mythes indiens. Et ce qui lui permet en gros de traverser toutes les épreuves de la vie parce qu'elle est confrontée à la pauvreté, parce qu'elle est confrontée au racisme, parce que... Mais grâce à ce père qui va la porter, à sa famille, à toutes les fêlures un peu qui sont imposées à elle, quoi, et ben elle réussit à avancer et tout le roman est raconté de son point de vue à elle. C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans, si je ne me trompe pas.
Magnifique.
Mais voilà, c'est une très belle histoire de famille et c'est un très très beau.
On va aller
très
manger
livre.
Ça.
Ouais.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Il faut qu'on écoute ton EP. On va te voir sur scène plein
oui.
de fois. On va. On y
tout
va
ça.
À fond.
On y va.
Merci encore. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cet échange avec Euth vous a plu. Je vous rappelle que Perpa Ma Page est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode et découvrir plein de nouveaux artistes. N'hésitez pas à m'écrire sur les comptes Instagram et Twitter de Perpa Ma Page pour me donner vos impressions et vos suggestions de lecture ou d'invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.